France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes dans le Poitou. Le département de la Vienne est à l'honneur cette semaine dans les carnets. Et nous parlons aujourd'hui d'un robot conçu pour remplacer les herbicides. La société Cycler, installée entre Poitiers et Limoges, dans le village de Pressac, a mis au point des machines qui fonctionnent grâce à l'intelligence artificielle. L'ambition est de désherber les grandes parcelles agricoles sans utiliser de produits chimiques. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Bonjour Sébastien Gory.
Bonjour Dorothée.
Vous êtes le président et cofondateur de Cycler qui a conçu ce robot baptisé le Grand Grillon. Alors sa mission est de débarrasser les champs des mauvaises herbes, les adventices. Pourriez-vous d'abord nous décrire ce robot ?
Oui, bien sûr. Donc c'est un robot qui est autonome. C'est un robot qui se déplace dans son environnement en comprenant dans quel environnement il se déplace grâce à des caméras, grâce à des lidars. Il va reconnaître les motifs de végétation, il va reconnaître des obstacles et il va générer son chemin de passage par rapport à ce qu'il voit.
Il fait 7 mètres de large, c'est une grosse bestiole.
C'est un gros grillon, effectivement. C'est un robot qui travaille en grande culture, donc sur des champs qui sont relativement étendus, puisqu'on est entre 5 et 15 hectares en général. Donc il y a un débit de chantier soutenu à suivre. Et pour cela, étant donné qu'on ne peut pas faire avancer le robot plus vite, parce qu'il y a des outils de précision qui doivent être actionnés au bon moment, et bien à ce moment-là, on le fait plus large, tout simplement.
Si vous me permettez cette comparaison, est-ce que ça fonctionne un peu comme les robots aspirateurs ?
Alors ça fonctionne un peu comme les robots aspirateurs dans le sens où ce sont des machines autonomes. Maintenant, les technologies embarquées sont très différentes. Un robot agricole va devoir faire face à un grand nombre de situations inconnues. Et puis, c'est un robot qui se base sur la vision avec des images à la fois en couleur et sur la lecture des volumes grâce à des lidars. Donc voilà, on n'est pas sur les mêmes technos, mais les principes sont un peu les mêmes. Le but, c'est qu'à la fin de la journée, le robot agricole soit passé sur l'ensemble de la surface du champ, de la même manière que votre robot aspirateur doit avoir aspiré l'ensemble de votre appartement.
Comment distingue-t-il les mauvaises herbes ?
Donc c'est de l'IA à laquelle on a appris à reconnaître un grand nombre de motifs ou d'espèces. Le but, c'est que le robot puisse distinguer les plantes cultivées de ce qu'on appelle les mauvaises herbes, mais de ce qu'on appelle en agronomie des adventices. Et donc ces mauvaises herbes sont affichées, enfin sont notées sur le référentiel du robot, et les outils sont activés pour les arracher, en évitant évidemment les plantes cultivées.
Ce robot, vous l'avez dit, s'adresse aux grandes exploitations, les grandes cultures, colza, maïs, tournesol.
Alors, il s'adresse aux grandes cultures, mais ce qui ne veut pas forcément dire les grandes exploitations. Une ferme peut très bien avoir que 60 ou 80 hectares de grandes cultures. Le but, c'est que notre distribution permette même à des petites fermes de bénéficier de ce genre de technologie. Donc, pour ce faire, on distribue les machines via des distributeurs qui sont ensuite opérés par des entreprises de travaux agricoles. Et ces entreprises de travaux agricoles vont être en mesure de travailler chez plusieurs petits agriculteurs, si vous me permettez l'expression, de manière à ce que deux agriculteurs qui ont 80 hectares, ça fait 160 hectares. Donc c'est complètement dans les cordes d'une machine comme le grillon.
L'agriculture biologique fait-elle partie de vos cibles ?
Bien sûr. La valeur à aller chercher pour l'agriculture biologique, c'est le fait de faire mieux que l'existant. Il y a beaucoup d'agriculteurs biologiques qui sont confrontés à un envahissement par les mauvaises herbes de leurs parcelles, sur lesquelles ils n'ont pas d'autre choix que de passer des outils mécaniques qui sont assez coûteux, qui sont assez imprécis, et sans pouvoir faire appel à la chimie quand ils sont débordés. Donc le robot doit faire mieux que les outils mécaniques existants, et donc les agriculteurs en agriculture biologique peuvent attendre des résultats bien meilleurs de l'usage de notre grillon que ce qu'ils peuvent obtenir des outils utilisés actuellement.
J'imagine que certaines dans le monde agricole ne voient pas d'un bon œil l'idée d'utiliser des robots pour désherber sur des parcelles toujours plus grandes. Comment réagissez-vous, Sébastien Gory ?
Alors, je ne veux pas rentrer dans la politique. Il y a des équilibres économiques qui sont là dans le monde agricole et en particulier en France. Je dirais quand même que les agriculteurs français sont sur la planète ceux qui sont soumis à le plus de règles et ceux qui font d'ailleurs montre de la meilleure volonté pour abaisser l'empreinte environnementale. Donc les fermes sont grandes, mais elles sont quand même beaucoup moins grandes que ce qu'on a ailleurs dans le monde. Et l'usage du robot sur ces cultures, justement, va dans le sens de la transition agroécologique, puisqu'on remplace des intrants chimiques par des actions mécaniques. Donc ensuite, c'est au consommateur de non seulement voter, mais aussi savoir faire le bon choix dans les grandes surfaces ou dans les épiceries et de choisir ce qui répond le plus à ses convictions. Sachant qu'évidemment, tout ce qu'on ne produit pas chez nous, ça veut dire qu'il va falloir l'importer. Et il sera très important de veiller à ce que ce que l'on importe respecte les mêmes règles que ce qu'on impose ici.
Pour quand est prévue la commercialisation de votre grand grillon ?
Alors le grand grillon est déployé en 2026, donc plutôt à la fin de l'année. On va avoir un prototype qui va continuer de tourner sur notre ferme expérimentale près de Poitiers, mais on en a d'autres qui vont être produits d'ici cet été pour des déploiements chez des clients fin 2026, début 2027.
Il est vendu autour de 200 000 euros. Est-ce qu'il est compétitif par rapport à l'utilisation justement de produits chimiques ?
C'est ça la vraie question. Il a un coût, bien sûr, mais le but c'est de comprendre est-ce que par hectare, est-ce qu'il coûte plus ou moins cher que la chimie ? Donc le but c'est qu'il soit au même prix, pour commencer. C'est notre premier engagement. Donc il faut qu'il soit amorti sur suffisamment d'hectares pour que le coût à l'hectare soit comparable à celui de la chimie qui est en fonction des environnements et des cultures entre 60 et 80 euros par passage. Donc d'où le fait de le faire travailler sur plusieurs petites fermes sur lesquelles il va pouvoir être utilisé non seulement au printemps sur des cultures de printemps, en automne sur des cultures d'automne et en hiver sur des cultures d'hiver. Voilà, donc on est vraiment dans un marché de polyculture, on n'est pas du tout en monoculture. Et pour répondre à la question que vous m'avez posée avant, le grillon est bien compatible avec toutes les règles évidentes de bonne conduite des fermes sur des cultures qui tournent et sur des exploitations qui peuvent tout à fait être bordées par des arbres, etc.
Donc ça ne serait pas rentable sur des petites exploitations, il y a plus intérêt à se partager le robot entre fermes.
Oui, c'est ça. Le but, c'est que sous le robot, on mette 200, 300, 400 hectares. Après, que ça appartienne à un agriculteur ou à plusieurs, le robot s'en fiche. Mais oui, il faut le mutualiser sur le plus d'hectares possible, bien sûr.
Ça fait de l'effet de voir ce robot à l'œuvre.
Oui, c'est ce qu'on nous dit et c'est aussi ce qui nous démarque de la concurrence. C'est vraiment un très gros robot, c'est probablement le plus gros robot du marché. Alors le but, c'est pas la taille, mais c'est que encore une fois, on est un des seuls aujourd'hui roboticiens à cibler la grande culture et avec l'ambition d'être au même prix que la chimie pour pouvoir prendre des parts de marché à la chimie et que les agriculteurs ne puissent plus se retenir d'acheter ce genre de machine parce que c'est plus cher que l'existant. Donc oui, c'est un robot qui est assez imposant. Bon, maintenant, il va très peu vite puisqu'il avance en fonction des modalités entre 3 et 5 km heure. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va vous écraser. Et puis, évidemment, tous les systèmes de sécurité sont faits pour que ça ne présente pas de danger pour les personnes ou les biens qui l'entourent.
Pourquoi avez-vous choisi d'implanter votre entreprise à Prayssac, village de 550 habitants ?
Eh bien, parce que j'y ai grandi, figurez-vous, et bien que j'ai continué ensuite mes études à Poitiers, puis à Paris, et que j'ai travaillé dans l'industrie à Paris et un peu partout dans le monde, j'ai voulu, par la création de mon entreprise, ramener de l'activité dans cette zone rurale que j'aime beaucoup. En plus, on a des bonnes infrastructures de transport, donc il n'y avait pas vraiment de barrière, mis à part la distance avec les grands centres de décision. On est à 50 km de Poitiers, 400 km de Paris, mais voilà, encore une fois, on a la chance dans la Vienne d'avoir la LGV qui nous relie à Paris, à Bordeaux de manière très rapide. Donc voilà, il était logique de profiter de la ruralité pour y installer une ferme expérimentale, des activités de recherche et des activités industrielles pour créer de l'emploi là-bas et puis créer de la valeur.
Oui, et le siège de votre entreprise, c'est la ferme de vos parents.
Oui, c'est ça. C'est l'ancienne ferme de mes parents, bon, qui a été repris depuis par des gens qui ont pris la suite. Mais le siège social est bien dans la ferme de Prayssac.
Vous avez été lauréat du plan France 2030 et vous bénéficiez donc d'un soutien de l'État. Vous avez aussi lancé une levée de fonds. Comment se porte l'entreprise Cycler aujourd'hui ?
Alors, l'entreprise Cycler, c'est une start-up deep tech industrielle. Ça veut dire que on a plein d'atouts. On va sur des technologies inconnues, ou en tout cas en développement. On développe des activités qui créent de l'emploi par les activités industrielles. Le problème, c'est que pour des investisseurs ou pour des financiers, ce sont deux facteurs de risque importants. Il y a de la deep tech, donc il y a des risques technologiques. Et il y a le problème de placer des usines et donc de gérer une planification industrielle pour réussir à produire des machines de qualité. Mais grâce à France 2030, dans laquelle on a été lauréat de deux appels à projets. On a réussi à avoir beaucoup de financements en subvention et en avance remboursable de la part de l'État qui ont à chaque fois catalysé des levées de fonds auprès d'investisseurs. La dernière levée de fonds, on en est assez fiers parce qu'on est passé par une plateforme de crowdfunding. 250 petits souscripteurs, des personnes comme vous et moi, ont souscrit des tickets allant de 2000 à 5000 euros. Et donc, c'est comme ça qu'on a réussi à boucler notre levée de fonds avec donc une forte participation du public qui croit beaucoup au soutien à la transition agroécologique et qui a tenu à participer à l'aventure.
Voilà, je traduis la deep tech, c'est la technologie profonde qui apparemment donc effraie un peu les investisseurs.
Alors c'est pas que ça effraie, parce que l'intelligence artificielle telle qu'on l'entend beaucoup en ce moment, c'est de la deep tech. Le quantique, c'est de la deep tech. Le nucléaire de quatrième génération, c'est de la deep tech. Donc en fait, il y a plein de deep tech différentes. Effectivement, ce sont des sujets qui nécessitent encore des travaux de recherche, alors à plus ou moins long terme, mais qui apportent également énormément de valeur et qui permettent à la France de rester souveraine en matière technologique. C'est toujours par la recherche profonde qu'on a réussi à rester une nation scientifique et industrielle à la pointe.
Vos robots sont-ils fabriqués en France ?
Oui, bien sûr, ils sont fabriqués à Prayssac, justement. On y a installé une usine, alors qui nous a été mis à disposition par le département de la Vienne, et donc ils sont fabriqués à Prayssac.
Merci beaucoup, Sébastien Gory, président de Cycler à Prayssac, dans la Vienne.
Je vous en prie, Dorothée, merci à vous.
Bonne journée, au revoir.
Au revoir.
Et je jette un œil aux messages que vous nous envoyez nombreux. Voici d'abord celui de Geneviève. Notre maman vient d'entrer dans une résidence senior basée sur l'habitat partagé. C'est un projet porté par deux sœurs, Cathy et Florence, qui ont investi dans la construction de cette résidence à Villiers, petite commune près de Poitiers. Nous avons été séduits, écrit-elle, par leur projet qui consiste à rompre l'isolement des personnes âgées encore autonomes. Nous aimerions les encourager et les soutenir dans cette initiative qui a du mal à se faire connaître. Elles sont bienveillantes, pleines d'humanité et très investies. Les Arentelles, maison partagée pour vieillir chez soi mais pas tout seul, c'est à Villiers dans la Vienne. Autre courriel, celui de Mathias qui chante les louanges d'une ferme bio du Poitou, la Folie Bergère. À Noyers-Maupertuis dans la Vienne, lieu dit la Lésinière, c'est la belle vie, écrit cet auditeur. Les moutons pâturent sur de belles prairies, les poules vivent au grand air, les légumes et les fruits sont cultivés avec amour. C'est un changement de vie pour un projet un peu fou, de Paris au Poitou. Un retour aux sources installé en 2015 sur une ferme de 60 hectares. Laurence a créé de toutes pièces son activité pour travailler au plus près de la nature et relever les défis d'aujourd'hui. Proposer des produits de qualité à deux pas de Poitiers, de l'agneau, des œufs, de la laine. Puis Benoît l'a rejoint en 2019 avec ses légumes et ensuite Amélie avec ses fruits. C'est une belle aventure que nous écrivons chaque jour avec toute la passion qui nous anime. La Folie Bergère à Noyers-Maupertuis, près de Poitiers.